Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il est rare que nous recevions à Popopop des animateurs télé, c'est même sans doute la première fois que ça se produit et l'on peut légitimement se demander pourquoi. Après tout, si l'on s'amuse à décortiquer la typologie de cette branche professionnelle, à en gratter l'écorce si je puis dire, ben on trouve de tout. Comme disait un ami à moi spécialisé en canalisation, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts, mais pas pour toutes les couleurs. Il s'agit d'une population majoritairement blanche, majoritairement masculine, majoritairement quadragénaire, même si la présence d'un Michel Drucker fait frétiller le curseur, est composée d'une collection d'individus allant du bon gros jovial débonnaire au bonimenteur de grande surface, décidé à fourguer tout le stock de presse purée, en passant par le petit pet-sec nerveux, acharné à débusquer la phrase à buzz potentiel, le prédateur sexuel en quête de chair fraîche adolescente, le névrosé de la mèche rebelle sur un front populaire, ou encore l'agité qui parle trop fort, en riant de ses blagues sans attendre la punchline. Oui, il y a du beau linge dans le panier du paf, et je dis ça avec d'autant plus de décontraction qu'il m'arrive de m'y retrouver moi-même, réunissant à moi seul toutes les qualités précédemment citées. Heureusement, il y a Findus, bien sûr, mais surtout l'antidote définitif à toute cette bruyante tribu. Elle est femme, ô combien attentive, passionnée, partageuse, spirituelle et chatoyante, même si je ne vois pas très bien ce que chatoyante vient faire là-dedans. Et 5 soirs par semaine, elle résume sur Arte en 45 minutes, qui paraissent en faire 28, les véritables problématiques de nos vies. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui Elisabeth Quin dans Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Bonjour Elisabeth.
Je réitère ma question. Vous êtes mariée? Vous êtes libre?
Oui. Je vais peut-être l'être à nouveau. Si vous me posez des questions de cette manière, vous avez le droit de rougir. Vous avez le droit de rougir.
J'ai le droit de me tortiller et de minauder. C'est pas mon genre. Salut, ça va?
Oui, nous sommes à la radio et je pense exactement tout ce que je viens de dire. Elisabeth, vous savez ce qui se passe quand on tape votre nom sur Google? Généralement, vous savez, on associe un nom à âge, taille, nu.
Et là?
Enfin pour moi. Hein. Et bien là, ce qui tombe dans les premiers résultats pour vous, c'est Elisabeth Quin, pull. C'est bien ça?
Oui, il y a même pull à Quin, pareil. Ouais, pull à Quin qui n'est pas une insulte en finnois, mais qui est un compte Instagram ou un type un peu piqué, paraît-il, recensé tout. Et pourtant, regardez, je suis sobre. Non,
vous êtes très très sobre aujourd'hui.
Anormalement sobre.
Peut-être parce que nous sommes à la radio.
C'est pour ça.
Et d'où vient cette passion pour les pulls, sans être indiscret?
D'une styliste dévergondée, quoi, qui a décidé de me mettre des écureuils sur les épaules, était le truc le plus sérieux à faire sur Arte.
Voilà le premier scoop de cette émission. À mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine, bonjour Elisabeth.
Bonjour
alors,
Charline.
J'ai regardé sur Google, c'est Picardie qui arrive très vite.
Logique.
Elle est picarde.
Je m'en doutais.
Deux filles à mes côtés, je suis comblé. Mais attendez, ce n'est pas fini avec nous tout à l'heure. Une des DJettes françaises les plus cotées à l'étranger. Chloé Thévenin, alias DJ Chloé, sera en notre compagnie. Elisabeth Quin, DJ Chloé, deux femmes, deux styles, c'est aussi ça, la pop culture. Mais justement, avant de pouvoir parler de pop culture, ici, Elisabeth Quin, il faut répondre à une question. C'est comme dans Burger Quiz, pour avoir accès au burger de la mort, il faut passer par les menus, le sel ou poivre et les nuggets. Vous êtes prête, Elisabeth? Pour vous. C'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses paracuellantes, extralicieuses, manicalibrantes, faradantesques même. Parmi mes préférées, il y a celle d'un dessinateur que vous citez dans votre livre « La nuit se lève », dont il va être question aujourd'hui, Jules. Écoutez.
Alors moi, j'ai une définition assez ample de la pop culture. À mon avis, la pop culture, c'est tout ce dont les snobs ne veulent plus. Donc c'est de la seconde main.
Merci Jules, et pour vous Elisabeth.
Merci Jules, la femme cyclope le salue bien, soyez en passant. je lui garde un chien de ma chienne.
Parce que vous avez doublé le personnage de Cyclope dans ses 50
minutes
de Drake.
Oui, sans savoir mes bobos. Mais j'ai un truc à faire. Je vais pas faire Madame Cyclope. Un peu Marie Chantal. Et après, il m'a dit, formidable, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Oh que oui! Lui ai-je pas dit.
La définition. Ça ne vous dispense pas de me donner votre définition.
Ma définition. Oui, parce que vous avez remarqué que j'essaie de gagner du temps.
Oui.
Pop culture. Dans pop culture, il y a ture.
Oui.
Il y a pop.
Il y a Q.
Et ben voilà. Ben écoute.
C'est un peu tout ça, quoi.
C'est un peu tout ça.
Ok.
Voilà. Un truc un peu érogène, un truc un peu érotique, un truc un peu qui vous excite.
Arrêtez, j'en supplie. Elisabeth, la pop culture, on va continuer à en parler juste après le tout dernier morceau du groupe australien Parcells qui s'appelle Be Myself.
Be myself.
Self, soit moi-même, non ? Dernière pépite pop.
Faites ça, Antoine, faites ça.
Australien Parcells. Vous écoutez Papa Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de la présentatrice d'une émission qui s'appelle 28 minutes, mais qui en dure 46, c'est étrange, tout aussi étrange que l'émission 7 à 8, qui est diffusée à 17h, ou encore le Saturday Night Live français, qui nous est proposé un jeudi. Pourquoi toutes ces imprécisions? Les médias nous mentent-ils? Suis-je une journalope? Toutes ces questions, et éventuellement quelques éléments de réponse dans le pop portrait. Alors le pop portrait, c'est votre portrait, Elisabeth, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rourourou.
Oh là là, c'était sobre aujourd'hui, oui. Je suis déçue. Trop tentant de ne pas annoncer aujourd'hui que nous recevons Queen Elizabeth. D'abord parce que, comme l'a chanté Ismaël Lowe, toutes les femmes sont des reines. Ensuite parce que de Queen à Queen, il n'aura échappé à pas grand monde qu'il n'y a pas grand chose à changer. Et aussi et surtout parce que c'est vrai. Elle a d'abord été amenée à exercer, sur le vaste par la taille mais petit par l'intérêt médiatique qu'il suscitait alors, royaume de la culture, avant d'étendre son territoire à la plus vaste actualité, sans bornes ni frontières, le tout à la télé. Et comme elle est plutôt du genre monarque très éclairé, Queen Elizabeth est toujours bien entourée dans 28 minutes. Ce territoire autonome est fort bien régi, qui a donné, et ce n'est pas pour nous déplaire, depuis la rentrée, quelques sueurs froides aux autres prétendants au trône, dictateurs mégalos et autres putschistes de l'accès. Des faits d'armes qui la rendent déjà très royale, et c'est même pas pour ça qu'on la reçoit. Queen E est aussi romancière et vient aujourd'hui nous parler de son dernier né, celui dans lequel elle nous éclaire sur l'obscurité qui la menace, car elle a pour devise, empruntée à Vassili Grossman, « Je ne crois pas au bien, je crois à la bonté ». Bienvenue dans Pop, et autant vous le dire de suite, ce n'est pas ici que régnera le crime de lèse-majesté.
Merci, chère sujette.
Queen Elizabeth, ça vous va très bien.
Genou à terre.
Queen Elizabeth, ça vous va très bien.
Alors, ça fait beaucoup rire les douaniers quand je me rends dans un pays anglophone.
Le mec me regarde.
Elizabeth Queen.
Queen Elizabeth. Beaucoup d'imagination, les parents. Certes.
Bon, Elizabeth Queen, Elizabeth, qu'aimez-vous regarder
Elizabeth qui Queen.
Oui, Elizabeth qui Queen aussi, enfin ça je ne le sais pas. Qu'aimez-vous regarder en dégustant votre thé? Quels sont les livres présents dans votre bibliothèque royale? Que mettez-vous à fond dans votre carrosse radio pour saluer la foule? Réponse avec votre pop list. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Et pour le livre, Elizabeth Queen,
vous citez... Antoine de Caunes.
Vous citez De l'inconvénient d'être né, écrit par Émile Cioran, paru en 73.
Un petit rigolo sous-estimé.
Oui. Alors voilà, c'est un livre moins joyeux que Oui, oui, fait du ski. Mais Charline, vous qui êtes née, résumez-nous cet inconvénient, je vous prie.
Il y a question sous forme d'aphorisme de l'absurdité de la condition humaine, autant dire qu'il y a de la matière, un ouvrage qui vous fera vous demander, et du coup vous rouler en boule dans la foulée, que se serait-il passé si j'étais restée à l'état de non-être?
Bien. Elisabeth, accepteriez-vous de nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
C'est ça, sortez les anxiolytiques, mes amis. Attendez, permettez que je mette mes lunettes.
Allez, j'ouvre la boîte.
Alors, vous allez avoir un petit aperçu de la dimension, au-delà de l'humour noir, du personnage, une sorte de droupie mélangée à un stoïcien. Émile Cioran, donc le roumain. Alors, nous ne courons pas vers la mort, nous fuyons la catastrophe de la naissance. Nous nous démenons, rescapés qui essayent de l'oublier. La peur de la mort n'est que la projection dans l'avenir d'une peur qui remonte à notre premier instant. Il nous répugne, c'est certain, de traiter la naissance de fléau. Ne nous a-t-on pas inculqué quel était le souverain bien, que le pire se situait à la fin et non au début de notre carrière? Le mal, le vrai mal, est pourtant derrière, non devant nous.
Et autre
vérité de cet acabit, vivre, c'est perdre du terrain, etc. Non mais moi j'adore, à petite dose, c'est une sorte de formule homéopathique qui vous met de bons poils. Ça peut pas être pire.
À petite dose,
on se l'injecte à grosse dose, vous foutez en l'air. Ouais. Mais on ne parle que de petite dose dans la vie. Raison gardée, Antoine.
Mais vous êtes très sensible, comme je le suis d'ailleurs, à l'humour de Suran.
Énormément. Ouais. De même que je suis sensible à Alphonse Allais, dans une mesure beaucoup plus sucrée, délicieuse et exquise à Jules Renard, Pierre Dac, enfin voilà, tous les aphoristes, tous les humoristes. Oui, ce sont des béquilles et des aides à vivre, absolument.
Bien, nous voici donc avec un livre. Elisabeth, pour le film culte, vous avez choisi Clute, réalisé par Alan Pakula, sorti en 71. Ah, ouais. Charline, je suis sûr que c'est de Clute que vous vient cette passion pour les bottes mi-cuisses, si magnifiquement portées par Jane Fonda. Et Francis Lalanne.
Ça vient d'un binge-watching forcené de la chaîne Chasse-Pêche. C'est pratique pour les marées. Pour ce qui est du film, Clute est le patronyme de John Donald Sutherland, détective privé amené à enquêter sur la disparition de la femme de son associé. La seule piste est une call girl nommée Brie, et c'est Jane Fonda avec des bottes, donc.
Brie Daniels.
One man is missing. Two girls lie dead. And somebody is on the other end of the phone. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid.
Clute, le film Clute, donc.
Tu remarqueras que de Clute à Culte, il y a un anagramme, c'est rapide et c'est facile.
Exactement, c'est juste pour ça alors.
Et pas du tout, elle est en psychanalyse. Brie Daniels, prostitute admirable, call girl absolument bouleversante, et psychanalysée. Vous vous rappelez de la psychanaliste? Une espèce de reine mère, blancs comme ça, une espèce de Marge Simpson, un peu sinistre. Le film me bouleverse. Espèce de moment qui encapsule toutes les années 70, quoi. Vous avez la musique,
Don't Be Afraid.
Les cadrages Don't Be Afraid. Sutherland qui est à la fois transi et qui comprend absolument pas ce qui lui arrive. Et il y a une
scène. Qui se retrouve à traquer un serial killer.
Un serial killer jusque dans les arrières-boutiques d'un mec qui vend des étoffes. Enfin, je l'ai pas vu depuis pas mal d'années, mais à une époque, je l'ai regardé en boucle. Et il y a notamment une scène où Brie Daniels, donc Jane Fonda et Sutherland, vont au marché, vont acheter des carottes et des légumes, et ils palpent les légumes sur les étals, ils se suivent, ils se frôlent, elle passe sa main sur sa gabardine, enfin c'est d'un érotisme latent absolument sidérant.
Allez au marché donc, en conclusion.
Rien de m'en parler, je me sens...
Oui, calmez-vous, un début de réaction.
Bon, poursuivons cette pop-liste avec la série, si vous le voulez bien, Elisabeth Quint. Pour la série, vous avez fait un choix de Guédreau avec Breaking Bad, c'est une... série créée par Vince Gilligan, diffusée entre 2008 et 2013 sur Arte.
Que je viens de découvrir.
Charline, vous, pour qui la méthamphétamine n'a plus de secret, résumez-nous.
Un prof de chimie atteint d'un cancer du poumon se met pour subvenir à ses besoins à fabriquer de la méthamphétamine et à la vendre, comme tout un chacun.
La chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change.
Vous avez compris ce que je vous ai dit ?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Pourquoi vous êtes là ?
Tu connais le business ? Et je connais la chimie.
Dites-moi pourquoi vous faites ça ? Allez, sérieux.
Je me suis réveillé.
Breaking Bad, on aura reconnu évidemment la version française. On a échappé à la version allemande, hein, parce que c'était diffusé sur Arte.
Soyez pas désagréable.
Mais non, enfin. Alors pourquoi ce choix de Guédreau ?
Parce que je viens de découvrir et de démarrer cette série. Oui, c'est mon truc, tu vois. Dans la modernité contemporaine, vivant avec son temps, enfin, c'est tout à fait moi. Et je repensais à une phrase de Scott Fitzgerald qui disait « Il n'y a pas de deuxième acte dans la vie d'un Américain ». Démenti admirable avec cette série.
Bien sûr.
Alors, je suis une novice, enfin, je débarque, mais l'acteur,
Bryan Cranston.
Bryan Cranston, phénoménal. Et cette idée qu'on brouille les frontières de ce qui est bien, de ce qui est mal, parce qu'il s'agit effectivement de se régénérer et de se donner un deuxième souffle, moi je trouve ça absolument génial. Par ailleurs, je crois que c'est la 13e meilleure série de tous les temps d'un point de vue scénaristique. Enfin, c'est ce qui a été établi par les sériologues. Et de ce que j'ai vu, c'est-à-dire quelques épisodes, encore une fois, je vis avec mon temps. Certes.
Mais je suis hyper jalouse, c'est-à-dire que là, vous avez 5 saisons à découvrir, en fait.
Oui, j'ai vu 4 épisodes de la première saison.
Finissez Breaking Bad et après, attaquez les Sopranos.
Vous allez voir,
c'est formidable aussi.
Non, faut pas pousser, non mais Antoine, ça va.
Alors, Elisabeth Quint, terminons cette pop liste avec la chanson, et votre chanson culte, c'est celle-ci.
C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra.
C'est extra de Léo Ferré, sorti en 69. C'est extra. C'est extra, alors pourquoi c'est extra plutôt qu'avec le temps?
Ah, parce que ça balance, quoi. D'ailleurs, c'est les Moody Blues qui s'en balancent. Ouais. Parce que ça swing, parce qu'il y a une espèce de... Il y a une rondeur, il y a une... avec le temps, on est dans le funèbre absolu. Celle-ci est beaucoup plus... comme ça, sensuel. Et en même temps, il est prodigieux quand on le voit chanter cette chanson avec ses dents du bonheur, son menton en galoche, sa gueule improbable, et cette espèce de chanson qui est comme une volute avec cette robe de cuir. Enfin, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre narratif en 4 minutes 12, je crois. J'adore.
Vraiment. Il vous arrive d'écouter du Léo Ferré en lisant du Cioran?
Lors de mon avant-dernier jour sur Terre, oui. Ça pourrait être une hypothèse. Et puis devant un petit Bergman, genre le 7e saut, et après, sans le on son. Saute.
Alors, je résume de l'inconvénient d'être René, Clout, Breaking Bad et Léo Ferré.
C'est grave, docteur?
Non, tout va bien. Je vais vous faire une prescription. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça donne ça.
C'est extra. Ray Daniels. Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel.
Pourquoi vous êtes là?
One man is missing.
Je connais le business.
And somebody is on the other end of the phone.
Et je connais la chimie.
La peur de la mort n'est que la projection dans l'avenir d'une peur qui remonte à notre premier instant.
Je me suis réveillé.
Don't be afraid.
Voilà, Elisabeth. Résumé en 28 secondes. Non? T'es un peu présomptueux, mais non. Ouais. Non? Vous y retrouvez?
Mais si vous le dites. Oh, bah, écoute.
Sans vos choix, Elisabeth.
Et une guéluronne, hein.
Une guéluronne, oui. Elisabeth Quint, dans votre pop-list, il y a du Léo Ferré, mais je sais qu'il y a aussi du PJ Harvey, et comme je ne recule devant rien pour mes invités, écoutons du PJ Harvey. Je vous offre une petite Orange Monkey. C'est un morceau que l'on trouve sur son dernier album en date, The Hope Six Dimension Project. Écoutez-moi ça. Small, could not block out a different life. PJ Harvey dans Pop 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 sur France Inter avec ce morceau Orange Monkey.
PJ Harvey qui fait l'objet d'un documentaire qui sera présenté à la prochaine Berlinale en fait, sur la jeunesse de cet album en particulier.
Merci.
Si vous êtes fan.
Elle portera bien les cuissards, tu vois, les cuissards de Brie Daniels.
Évidemment.
Ça lui irait plutôt drôlement bien.
PJ Harvey pour le plus grand plaisir de notre invité Elisabeth Quint. Bon, rebonjour Elisabeth. Elisabeth,
Antoine.
Vous venez nous présenter La nuit se lève aux éditions Grasset, un livre dans lequel vous vous livrez sur une maladie qui vous touche, qui touche vos yeux plus précisément et qui risque de vous faire perdre la vue. Alors un mot de ce très beau titre, d'abord La nuit se lève, écho au film de Marcel Carné.
Pas du tout, écho à Régine. Écho à Régine.
Ah bon?
Ouais. C'est Régine, vous savez qui est Régine?
Ouais, oui, très bien.
Les petits papiers, etc.
Ouais.
Non, c'est une phrase que Régine prononçait dans les années 70 dans son club. Mm-hmm. Ou plutôt qu'elle aboyait, ou qu'elle beuglait, ou qu'elle. Quand les gens arrivaient, oh, la nuit se lève et tout. Et on m'a raconté ça il y a des années, j'ai trouvé ce mot, cette phrase superbe, cette inversion.
Absolument.
Et au moment de chercher un titre, plutôt que Journal d'un glaucome, qui était un peu technique, dirons-nous, je me suis dit, tiens, la nuit se lève. Une petite espérance au bout du truc.
C'est marrant parce que moi, vraiment, je voyais une correspondance avec le titre de Carnet.
Ouais, ouais, ouais.
Vous savez que le film de Carnet était assimilé à ce qu'on appelait le réalisme poétique.
Oui.
Et je m'imaginais que c'était une disposition d'esprit dans laquelle vous auriez pu vous retrouver.
Pas du tout. Non, non, moi, c'est Régine.
D'accord.
Moi, c'est quand c'est clinquant, quand c'est en sous-sol, les boîtes de nuit, les trucs. C'est tout moi.
Okay. Mon anecdote préférée du jour, je le dis tout de suite. De la poésie, mais une forme de cruauté et d'extrême drôlerie à la fois sur votre condition et ce qui vous entoure.
Ouais.
Vous vous racontez assez crûment, mais de manière extrêmement lettrée. Un mélange très particulier qui vous définit bien.
Peut-être.
À votre avis ?
Écoutez, c'était nécessaire pour moi d'écrire ce bouquin parce que d'abord parce que je voulais partager, je voulais ne pas rester seule avec ce fardeau qui est le double glaucome, c'est-à-dire un tout petit peu techniquement une neuropathie, une atteinte du nerf optique à cause de la pression dans l'œil. Il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie, il y a beaucoup de gens qui en sont évidemment bouleversés, désespérés ou plus, comme je l'ai été quand on me l'a annoncé. Et je trouvais, enfin, j'ai eu besoin de témoigner, voilà, de raconter. Y compris de raconter comment on est amené, forcément quand on vous dit à terme il y a 100 millions de gens dans le monde qui sont aveugles à cause de la maladie, donc on est amené à se mettre à la place de la personne non-voyante qu'on pourrait devenir, donc à se projeter et à s'identifier aux malvoyants et aux non-voyants. Donc j'ai fait cet exercice qui n'est pas indécent, hein, qui est juste un exercice de salubrité personnelle.
Oui. Voilà. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, hein, côté édition. Vous avez notamment publié La peau dure et Tu n'es pas la fille de ta mère, deux romans qui tricotaient entre romanesque et autofiction.
Récit, oui.
Oui, vous êtes votre propre matière première en
Je n'ai aucune imagination. Il faut bien le reconnaître. Écoutez, j'ai 55 ans, j'ai quelques poils blancs sur le caillou et je l'avoue, n'est-ce pas, je fais le bilan de ma vie et de ce que je suis. Je n'ai pas d'imagination. Alors j'en ai peut-être dans la vie quotidienne, mais je ne suis et je ne serai jamais, hélas pour moi, ni Jim Harrison, ni Alexandre Dumas, vous voyez. Bon, voilà, donc il faut connaître ses limites. À partir de là, quand vous avez un truc à dire et que vous n'avez pas d'imagination, vous vous lancez dans le récit. Voilà.
Le livre est exempt de tout pathos, mais très riche en terminologie médicale et perspectives d'intervention flippantes.
Un peu chiant, vous voulez
dire ? Même ça, non, pas du tout, parce que même ça, c'est parfois très drôle. En revanche, ce qui l'est moins et que vous abordez aussi dans le livre, c'est la froideur parfois très clinique, c'est le cas de le dire, du personnel médical. Vous qui êtes une femme de lettres, comment est-ce que vous jonglez avec le laconisme médical ?
C'est pas seulement. Il n'y a pas que du laconisme. Il y a aussi des médecins qui s'expriment, mais qui s'expriment avec une brutalité qui a l'air même de les faire jouir.
Qui les protège aussi.
Alors, qui les protège, oui, c'est cet éternel mythe du médecin qui, confronté à l'horreur, à la condition humaine, à toute cette abomination, doit se protéger. J'y crois pas une demi-seconde. Je crois pas du tout à ça. J'ai rencontré des hommes et des femmes médecins ophtalmos et parmi les meilleurs, qui sont peut-être de la génération de 60-70 ans et qui ont conservé ce que le fameux Raymond Garcin disait, prenez la main du malade, prenez-lui la main. C'est-à-dire, juste l'humanité élémentaire qui fait que vous ne vous sentez pas, d'une part, enfermé, incarcéré serré dans votre maladie, que vous ne comprenez pas, évidemment, à propos de laquelle vous ne savez pas ce qui va vous arriver, et surtout, vous êtes dans une soumission totale à la parole de la faculté. Le médecin qui vous prend la main, au sens littéral ou figuré du terme, ça change tout.
Est-ce que écrire sur un sujet aussi intime et douloureux, c'est une manière pour vous de le dédramatiser ?
Ah ben évidemment.
De le garder à
de
distance.
De le mettre à distance. Ouais. D'autant que c'est une maladie très particulière qui atteint le champ visuel, donc le champ visuel se rétrécit, mais ne me dites pas combien il y a de doigts, parce que là... quand même, on n'en est pas là. Non, mais je la vois, ma maladie. Si vous voulez, quand je vous regarde, je vois la maladie, puisqu'il y a quelque chose en bas de mon champ visuel qui l'occupe. Donc, il faut mettre ça sur le papier. Il faut absolument le mettre à distance. C'est illusoire, puisque je me réveille et je me couche avec cette maladie. En moi, elle est moi, elle fait partie de moi. Mais la mettre à distance, écrire, réfléchir, lire ce qui a pu être écrit par des gens qui étaient qui ont été aveugles et qui s'en sont trouvés fort bien. Très étonnamment, je suis tombée sur des témoignages absolument ahurissants que j'évoque dans mon bouquin. Ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai envie de les partager avec ceux qui ont la même maladie que moi.
Il y a un moment que je trouve, personnellement en tout cas, très très touchant dans le livre, c'est celui dans lequel vous parlez de votre rencontre avec votre fille, dont vous dites, je cite, qu'elle est née dans vos yeux et qui vous fait vous demander ce qui se serait passé si vos regards ne s'étaient pas croisés.
Mais oui, tout simplement. Mais oui, tout simplement, puisque je l'ai adoptée. Et je l'ai adoptée sur place, in situ, si je puis dire. C'est-à-dire, j'étais dans un orphelinat il y a une quinzaine d'années. Et dans cet orphelinat, j'ai croisé son regard. Alors après, je me suis peut-être... J'ai créé le mythe de l'adoption, peut-être, mon propre mythe. Mais il se trouve que, enfin, je crois que je ne me trompe pas, elle a croisé mon regard et j'ai lu dans ce regard quelque chose qui a fait écho avec ma recherche et peut-être même une colère qui était la mienne. J'ai vu cette colère-là, cette pulsion de vie, cette envie d'être ailleurs que dans ce lit d'hôpital, enfin d'orphelinat plutôt. Qu'est-ce qui se serait passé effectivement si j'avais pas pu la voir ? Bon, question ouverte.
Comme vous lisez, dites-vous, dans le regard de vos invités avant l'antenne, quelle va être l'humeur ?
Oui, bien sûr. Mais oui, mais vous aussi, non ? Que ce soit de la radio ou de la télévision. Enfin, je veux dire, c'est tout passe par là. Mais encore une fois, quand ce sens-là s'appauvrit, la perte, on est tous confrontés à la perte de toute façon, la perte de l'existence, la perte des heures, la perte des jours. Bon, c'est la perte d'un sens. Le prodige, c'est que vous compensez tout le reste et que vous devenez les radars, tout se met, tout se met à vivre et à capter d'une autre manière, d'une manière complémentaire et peut-être même plus riche, il paraît.
Elisabeth Quint, dédramatiser, c'est aussi raconter des effets secondaires, parfois assez poilants, si je puis dire.
La pince, le coup de la pince, monseigneur.
Les médocs que vous prenez développent la pilosité, notamment, et c'est dommage que nous soyons à la radio, parce que je trouve que cette petite barbe naissante vous va à merveille.
Barbe de trois jours
Enfin, vous avez une antenne tout à l'heure, essayez quand même.
Oui, mais j'ai des maquilleuses extrêmement douées.
Et donc, vous gardez quand même votre sens de l'humour.
Mais attendez, on n'a pas le choix. C'est pas à vous que je vais expliquer ça. Oui, non, mais l'écriture, c'est un tamis. C'est-à-dire qu'il y a eu les années où ça me rendait dingue. Il y a eu les années où j'avais envie de tout lâcher. Ça vaut aussi pour la prise de médicaments. Combien de gens qui sont malades ne sont confrontés à l'envie d'arrêter l'observance de leur traitement ? Alors, risques et périls. Même moi, je l'ai fait un peu, il y a une dizaine d'années. Je mettais pas les gouttes, j'y croyais pas. Bon, alors, il y a ça, il y a le déni, il y a la panique, il y a l'horreur, il y a l'épouvante. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se met à basculer à l'intérieur de vous. Si vous avez une bonne nature, vous vous dites, non mais quoi, on va quand même pas se laisser faire par la bête. Donc, il s'agit de se muscler au niveau de ça, quoi, de l'autodérision, de l'humour. Donc, effectivement, je dois épiler les poils qui poussent à cause de ce foutu collier qui développe une sorte de pilosité, là où vous n'avez pas envie d'avoir des poils quand vous êtes une fille. Le menton, le truc, le machin, bon. Et puis surtout, vous êtes dans la rue, vous croisez quelqu'un qui vous regarde, le regard insistant sur le... Et vous dites, merde, je l'ai raté. Parce qu'en plus, ils sont durs. Ils sont particulièrement tenaces.
T'es pas des poireaux, quand même.
C'est quoi le poireau ? Non, bientôt, dans 10 ans. Bah, ça, c'est dans 10 ans, c'est l'étape d'après.
Autre effet secondaire, une ultra-sensibilité finalement assez logique au parfum, au son, et même un presque super pouvoir avec les animaux.
Oui, oui.
C'est plus incongru, pour le coup.
Non, pourquoi ? Enfin, vous savez bien qu'on est tous liés, franchement. Non, mais nous sommes tous liés. Oui, oui, les oiseaux. Mais alors, c'est un truc, de même que le glaucome est héréditaire, moi j'ai un truc avec les oiseaux qui est sans doute de famille. Ma grand-mère, paternelle, enfin bon, mon père qui se dissolvait dans les oiseaux, alors qu'il avait lui-même perdu la vue et la tête. Oui, les animaux me parlent. Effectivement, il y a deux, trois goélands du côté de Trouville que vous connaissez bien, Antoine de Caunes, qui me regarde passer, l'air un peu navré et en même temps plein d'empathie.
C'est l'air naturel du goéland, l'air navré.
Oui, et bien ceux-ci ont compris qu'il fallait quand même un peu de délicatesse. Non, mais je plaisante.
Normalement, il n'y a que les princesses Disney qui parlent aux animaux.
Mais non, mais vous savez, l'esprit d'invisible, c'est une réalité. Ouais.
Elisabeth Quint, vous souffrez donc de ce mal étrange, ça s'appelle un double glaucome, il a été diagnostiqué en 2008 et il vous conduit doucement mais sûrement vers...
Pas sûrement.
Sauf opération.
Oui, voilà,
d'accord,
opération.
Okay, d'accord. Prenez cela comme une ironie tragique, vous qui travaillez dans l'audiovisuel et qui cherchez particulièrement à rendre visible et compréhensible l'actualité.
Évidemment, mais pas de là à me dire « ceci explique cela ». Il faut pas trop se poser de questions. Enfin, j'ai aussi découvert ça. Le sens de la maladie, c'est un truc évidemment Pourquoi moi? Pourquoi? Ça me frappe. Ça sert à rien. C'est une perte de temps. J'ai arrêté de me poser ces questions et d'essayer de corréler, comme ça, en faisant une espèce de psychanalyse de comptoir, vous voyez. Non, ce qui compte, c'est de vivre la maladie, puisqu'elle est totalement constitutive de moi maintenant, et demain. Et demain et l'autre. Et donc l'empathie et le partage et le contact avec l'autre. Et la confiance. Enfin voilà, la confiance.
Vous faites de la télévision avec un certain détachement quant à la gestion de l'image. La caméra, vous le dites, étant une loupe, est-ce que le mal dont vous souffrez éveille de nouvelles angoisses à ce sujet ?
Pas du tout. Aucune. Étonnamment, aucune. Il y a peut-être un angle mort, là, chez moi. Mais c'est le cas de le dire. Mais aucune. Et comme me le disait un ami bien intentionné, tu peux toujours faire ton métier borne. Si tu étais sourde, ce serait plus chiant. Mais bon, après, il y aura la radio. Enfin bon, voilà. Donc, toutes sortes de perspectives.
C'est sûr, votre ami.
Mais c'est sûr. C'est sûr. C'est l'enfance spirituelle de Sûran.
Tout s'explique. Et vous le dites vous-même, d'ailleurs, dans le livre, dévoiler le secret, écrire sur le glaucome, c'est prendre le risque de faire pitié ou de déclencher une réunion en haut lieu pour me trouver une remplaçante aux yeux en béton armé. Comment imaginez-vous la suite, d'ailleurs, si la lecture, par exemple, vous devient impossible?
Ah, si la lecture me devenait impossible, on a beau avoir des audiolivres, je ne sais pas. Je ne sais pas. Lire, c'est ma vie. Enfin, nos vies. En tout cas, lire et regarder la lumière. Donc, je ne sais pas. Mais il y aura une suite. Vous savez, étonnamment, les sourds. Il y a beaucoup de cas de personnes devenues sourdes qui tombent en dépression profonde. C'est assez peu le cas avec les gens aveugles. Alors, il faut croire qu'une lumière qui émane de tout l'être permet de compenser la perte de la vue.
Justement, un ami vous a fait remarquer le glaucome, je le cite, c'est emmerdant, mais tu peux encore faire ton métier à moitié aveugle, tandis que si tu étais sourde, donc à tout prendre, si vous aviez le choix.
Aveugle.
Oh, le dilemme de l'enfer, le choix de Sophie. Le choix de Sophie, vous préférez regarder.
Mais il est comme ça. Soyons réalistes.
Bon, enfin, pour finir, vous en profitez au passage pour rappeler, au-delà de votre cas particulier, Elisabeth, que le glaucome touche 1 million de personnes en France, sans parler de ceux qui ignorent
sans parler de ceux qui ne savent pas qu'ils ont cette maladie.
Exactement.
D'où la nécessité, peut-être quand même, de mettre en place une petite politique de dépistage.
Il n'y en a aucune pour l'instant.
Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il en faudrait. Non, mais il en faudrait parce que c'est handicapant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bien. La nuit se lève, c'est édité chez Grasset.
Et ça sort aujourd'hui.
Non,
c'est sorti il y a 2 jours.
Non, c'est sorti il y a 2 jours, c'est exactement ce que je disais à l'instant. Est-ce que vous savez faire ça?
Non.
Oh,
mais je sais faire d'autres trucs.
Qu'est-ce que vous savez faire d'autre?
Ah, bah attendez, non, mais là, la descente m'interdit de.
L'illusion, là, entre nous.
Hein non.
Voilà, vous savez le faire, mais évidemment. Bon, c'était juste pour lancer des pop-up.
Oui, j'ai compris.
Ce soir, oubliez le Macumba et rendez-vous au Wakanda. C'est une blague de non-milléniaux. Black Panther, le film et le phénomène sont à l'honneur sur Canal+.
Wakanda forever!
Le Wakanda est une nation africaine technologiquement très avancée et le trône que T'Challa, l'héritier, vient occuper. Mais T'Challa étant aussi Black Panther, ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. Le film de Ryan Coogler est le premier blockbuster parlant de l'Afrique, interprété par un casting majoritairement afro-américain et avec cerise sur le beau gâteau des personnages féminins brillants et ou kickass. Le film est le deuxième plus gros succès mondial de l'année après Avengers Infinity War, donc un véritable phénomène de société décrypté dans Black Panther Power, un documentaire signé Sophie Pagès. Black Panther, le film suivi du doc, c'est à 21h sur Canal+, en attendant son retour ou pas dans Avengers Endgame le 24 avril.
Vous aimez le métal et la country, alors pas de souci, un groupe se plie en 4 pour vous. 4, c'est le nombre de Horsemen qui forment Metallica et le titre qu'ils ont repris sur scène en version Yeehaw, c'est ça. Un double album caritatif, Helping Hands, live et acoustique à The Masonic, et ça sortira en février.
Et un retour à annoncer, alors souhaitable ou pas, c'est au public et à ses parents de décider, car ce retour, c'est celui de Tanguy de Châtillé.
Je t'aime, maman.
Moi aussi, mon chéri.
Et je t'aime, papa.
Moi aussi, mon poulet.
Promis ?
Promis.
Le trentenaire qui squatte papa et maman est désormais quarantenaire et revient à la maison, cette fois avec sa propre progéniture sous le bras. Tanguy, le retour, toujours avec Sabine Azéma, André Dussolier et Éric Berger dans le rôle titre. Ça sortira le 10 avril.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Pas très Tanguy, ça.
Non, c'est Black Panther.
Non, non plus.
Non, okay, j'ai essayé, c'est pas
mal. Ouais, c'est pas mal.
Merci Charline. Avant d'accueillir DJ Chloé, écoutons un artiste, que dis-je, deux artistes qui mettent tout le monde d'accord, Serge Gainsbourg et Jean-Claude Brialy, avec un poison violent, c'est ça l'amour.
Qu'est-ce autre chose que la vie des sens, qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. De l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Je m'en fous, ta gueule, laisse-moi finir. L'âme flottant toujours incertaine entre l'ardeur qui se renouvelle, l'ardeur qui se renouvelle et l'ardeur qui se ralentit. L'ardeur qui se renouvelle et l'ardeur qui se ralentit. Ce mouvement perpétuel de l'appétit au dégoût, de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. On ne laisse pas de se divertir par l'image d'une liberté errante. Tu sais de qui c'est,
non?
Bossuet.
Bravo, tu n'as pas raison funèbre?
Ah non, parce que moi je suis assez cynique pour en faire ma ligne de conduite.
Oh, t'es dégueulasse! Dégueulasse, mon vieux!
Ouais, ouais, un peu amnésique sur les bords, hein? Voilà où ça mène. Un poison violent, c'est ça l'amour! Un truc à pas dépasser la dose, c'est comme en bagnole. Au compteur 180, à la borne 190, effusion 200. Voilà, je te donne un conseil, tu tiens ta peau, laisse tomber.
Je cours après une ombre, tu vois, et c'est même pas la mienne. Encore elle serait sur les colonnes Maurice, je pourrais l'attendre à l'entrée des artistes. Mais elle est insaisissable. Où veux-tu que je la trouve?
Oh, mon petit Armstrong Jones, il fallait pas faire de la photographie.
Oh, toi t'es écœurant. On peut pas discuter avec toi. Tu prends toi la blague.
Oh, erreur. Erreur justement. Un de ces quatre, tu verras, tu m'en rendras raison. Écoute. Quand tu en auras marre, j'ai une petite pour toi, complètement demeurée, mais tellement esthétique.
Oh, ne fatigue pas, va. Allez, salut.
Gainsbourg, Brialy, un poison violent, c'est ça l'amour. C'est dans Pop 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 sur France Inter, cet extrait de la BO du téléfilm Anna, c'était en 67. Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Quin et vient de nous rejoindre Chloé Thévenin, alias DJ Chloé. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Préférez Chloé Thévenin ou DJ Chloé d'ailleurs?
Chloé.
Chloé.
Tout simplement. Ouais, okay.
Chloé ou DJ Chloé, pour vous dire bonjour, je déclenche la Marseillaise.
Allons enfants de la patrie.
Oui, car vous avez mixé.
Moderne, cette version.
Vous avez mixé à l'Élysée en juin dernier pour la fête de la musique, une véritable consécration ou quoi?
Je ne crois pas que ce soit la consécration de jouer à l'Élysée. En tout cas, c'est une ouverture d'esprit que l'Élysée a faite. C'est la première fois que la musique électronique rentrait à l'Élysée. Donc je pensais que c'était très important d'y être, effectivement.
Est-ce que c'était un public aussi facile et accessible que d'habitude?
Alors, pas du tout, parce qu'effectivement, en fait, les premières personnes qui sont rentrées, je pense que c'était des personnes qui étaient ravies de venir voir la cour de l'Élysée, voir l'Élysée, voir un événement, mais pas forcément un public qui connaissait, qui était réceptif à la musique électronique. On va dire que c'était plus pour l'événement lui-même que l'animation. Oui. Voilà.
Kid Ismail, qui jouait aussi ce soir-là, portait un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Fils d'immigré, noir et PD ». Et vous, qu'auriez-vous aimé inscrire sur votre t-shirt, Chloé?
Écoutez, moi, les seuls t-shirts que j'ai en ce moment, c'est les t-shirts du nom de mon label, qui ont écrit « Lumière noire ». Donc voilà, après, je pense que c'était important d'avoir... qui est différents courants justement et dans la musique électronique justement, et je pense que c'était important aussi effectivement que qu'il était dans cette affirmation là parce que c'est vrai que avant d'aller jouer à l'Élysée, même de la part de pas mal de personnes en fait dans la musique électronique et de notre entourage, c'est vrai qu'il y en a certains qui étaient vraiment mécontents qu'on aille jouer à l'Élysée symboliquement.
Ouais.
Et voilà. Moi, c'est vrai que j'y voyais pas du tout, de mon point de vue, j'y allais pas pour une quelconque idée politique. Moi, pour le coup, j'y allais pour la fête de la musique et symboliquement, je trouvais que c'était important que
que nous soyons représentés.
Je sens qu'Elisabeth est très intéressée par votre t-shirt lumière noire.
J'allais lui dire, vous me le donnez, vous me le donnez là. Parce que la nuit se lève, lumière noire, on est en phase.
Là. Oui, bah, tout à l'heure, quand vous avez parlé de la nuit se lève, j'ai pensé justement à ça, justement, le titre de mon t-shirt. Et j'ai aussi un titre de mon album qui s'appelle The Dawn, qui pour le coup est l'aube, le jour se lève.
On repart ensemble, Chloé.
Tiens, The Dawn. Aujourd'hui, vous venez nous présenter Endless Revisions. C'est un concert qui porte le nom de votre troisième album, dont on entend justement le titre, Down, en fond sonore, avec la voix de votre maman.
Exactement.
C'était orange. Non.
Pourquoi?
C'est pas les featuring les plus classiques, on va dire.
C'est vrai.
Ouais.
Mais j'avais envie moi aussi de poser cette question-là, savoir pourquoi. Non, mais en fait, ma mère est anglaise et en fait, j'enregistre. J'aime bien la voix de ma mère. J'enregistre la voix de ma mère et aussi parce qu'en fait, elle a la maladie d'Alzheimer et en fait, tout à l'heure, vous parliez de la perte de la vue. Et en fait, elle perd la mémoire. Et donc, j'avais besoin d'enregistrer, d'avoir ces enregistrements.
Des traces.
Voilà, comme des traces. Voilà, c'était la seule façon, en fait, de garder, en fait, des souvenirs d'elle, des choses, des traces, en me disant, peut-être que quelque chose, un jour, je ferai quelque chose de ça. Et voilà, donc j'ai fait ce morceau-là qui pour moi est un morceau en hommage à ma mère, bien sûr, mais qui est aussi un hommage justement aux souvenirs, au temps qui passe et à la nostalgie. Et d'ailleurs, ce morceau commence avec un lecteur de radiocassette qui commence donc avec une ouverture comme si on mettait une cassette dedans, parce que j'ai un lecteur cassette qui traîne et je trouvais ça marrant de le mettre. Mais aussi pour symboliser justement tout ce temps qui passe. Et ça termine, le morceau se termine avec le radiocassette. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça aussi qu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle dit. Mais qu'on comprend en fait, on sait qu'elle se rappelle de moments, mais sans vraiment bien les distinguer. Voilà.
Je le dis pour les millénials qui nous écoutent, une cassette, c'est un MP3 qu'on peut rembobiner avec un crayon.
Oh,
Chloé, votre obsession, c'est de travailler la place des sons.
Ce génisme forcené,
pas du tout, c'est didactique en fait. Tout le monde ne sait pas ce qu'est une radiocassette.
La route aux jeunes.
Parlez à deux septuagénaires, enfin quand même. Pour finir, Endless Revisions, c'est un concert qui va se dérouler à l'Élysée Montmartre le 26 janvier prochain. C'est pas un peu la loose de passer de l'Élysée à l'Élysée Montmartre?
En fait, j'ai été résidente pendant très longtemps à l'Élysée Montmartre, il y a 20 ans, dans des soirées qui s'appelaient Panique. Donc c'était un vrai rendez-vous, en même temps que le Pulp. Ça a duré très longtemps. Je pense que ça a marqué pas mal de gens, en tout cas de gens qui venaient à l'Élysée Montmartre, bien sûr. Et donc pour moi, c'était aussi, ça avait du sens que de revenir à l'Élysée Montmartre. Entre-temps, je suis revenue à la soirée de Justice où j'ai été invitée. Au concert de Sons. Donc pour moi, voilà, pour toutes ces raisons-là, ça avait du sens, d'autant plus qu'ils font plus de clubbing là-bas. Donc j'y vais en format concert, donc j'y vais en live.
Voilà. C'est une vraie belle salle, il faut y retourner à l'Élysée Montmartre. Vous écoutez la musique les yeux fermés ou ouverts?
Moi, j'adore écouter les yeux fermés, effectivement. Puis à la question tout à l'heure dont on posait,
Antoine. C'est cité ou surdité? Le dilemme sympathique.
Qui est une question horrible.
Ouais, horrible, mais...
mais malgré tout, je pense que...
Ou Alzheimer.
Ah,
troisième proposition. Ah,
oui. C'est vendredi, c'est sympa, le week-end, ce genre de conversation.
Ça me fait penser à Sammy Davis Jr.
Qui avait la totale.
Oui. C'est pas Alzheimer.
Oui. Vous m'en rire aussi.
Et qu'est-ce que je voulais dire?
Non, je disais que je pense que, enfin, moi, à mon avis, c'est que j'aurais aimé, si j'avais le choix, si j'avais pas le choix, en fait.
Ouais, c'est ça, plutôt.
J'avais pas le choix, ben, ce serait de perdre plus la vue, effectivement, parce que le son, en fait, je pense qu'on peut développer beaucoup plus de sensibilité avec le son et être beaucoup plus, encore plus attentif peut-être aussi.
Et plus présent au monde.
Ouais.
C'est ce que disait Lucéran, dont je parle dans mon bouquin, qui disait « j'entends avec tout, je vois avec tout mon corps ».
Quoi ?
Ouais. Bah, vous n'y êtes pas encore.
Elisabeth Quint, DJ Chloé. Nous sommes vendredi, et vendredi n'est pas que le jour du poisson congelé de la cantine de France Inter, c'est également le jour de la livraison du magnéto « Le grand n'importe quoi » d'Alexandre Verret. Je vais aller voir à la cave si on me l'a livré. Bah tiens, c'est nouveau ça. J'ai un ascenseur maintenant ici. Bon, je l'appelle. Hein ? Incroyable. Mais... Ah, il est là. Oh, c'est magnifique. Alors, 1, 2, 3, moins nawak. Donc si j'appuie là, ça donne quoi ?
Eh bien.
bien, comment dirais-je, je vous remercie de m'avoir posé cette question.
Je vous remercie de m'avoir posé cette question.
Parfois dans mon pays,
toute
question ne mérite pas réponse.
Toute question ne mérite pas réponse.
Mais je ne suis pas comme ça.
Mais je ne suis pas comme ça.
C'est
non.
Pour cela que je m'en vais vous répondre.
C'est pour cela que je m'en vais vous répondre.
Tout simplement, pourquoi
tout
vous me l'avez posé.
Pourquoi vous me l'avez posé.
N'importe quoi. Dans la catégorie anonyme, le gagnant est...
Ping pong circulate.
Eh bien, nul doute, votre hamster chante en sol majeur.
Over. Merci Alexandre Véret, dose hebdomadaire de n'importe quoi, chaque vendredi dans Pop Pop Pop. Bon, comme je suis bloqué dans un ascenseur, comme Madame Musquin dans Le Père Noël est une ordure, je vous conseille là-haut de jouer un morceau. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah oui, oui, je sais, Eric Clapton et Stevie Winwood, Can't Find My Way Home. Mais mettez la version live, s'il vous plaît, du Madison Square Garden. Allez!
Thank you.
Eric Clapton et Stevie Winwood sur France Inter dans Pop 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 avec cette version live au Madison Square Garden de Can't Find My Way Home. Elisabeth Quin, Chloé, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous toutes les deux y laisser symboliquement ou non, Elisabeth?
On va laisser une petite dernière, un petit étron mirifique de Cioran.
Allez-y.
C'est plutôt pour vous et moi, cher Antoine, puisque nous sommes des personnes très âgées et très sages. Mm-hmm. La vieillesse et l'autocritique de la nature.
Ah, c'est pas mal.
S'il vous plaît.
Je le fais encadrer. Et vous, Chloé?
Moi, je vais juste laisser mon radiocassette que de tout à l'heure. Je vais le laisser dans la cave. En général, on les laisse dans les caves.
Il est en état de marche ou je dois changer
les
piles?
Oui, il marche très bien.
Il est auto-reverse?
Ouais.
Et
on peut même copier les cassettes.
Remercie.
Trop bien.
Elisabeth Quin, La nuit se lève, c'est édité chez Grasset. C'est sorti il y a deux jours et c'est chaudement recommandé.
Merci.
Pop,
Antoine.
Pop, pop. Merci Chloé. Rendez-vous
merci
à
beaucoup.
L'Élysée Montmartre le 26 janvier pour le concert d'Endless Revisions. J'en profite pour annoncer que vous serez également au festival Jeunes gens modernes à Orléans du 31 janvier au 2 février et à Annecy le 20 mars. Merci à l'équipe de Pop, Pop, Pop. Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Patrick Henry, toujours en condition. On vous a à l'œil, comme dirait Elisabeth. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet.
Il est navrant, mais on l'aime.
Arrestat, nos attachés de production. Et à la programmation musicale, Djoubaka. Demain, dans Pop, 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 lui. Gilbert Montagné. Non, je plaisante. Oh, ça va.
Ah, c'est pour moi, c'est gentil.
Demain, c'est samedi. Et en plus, on a déjà l'autre côté d'aveugle. Bon, mais lundi, dans Pop, 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 Night Shyamalan. Enfin bon, le réalisateur du Sixième Sens sera avec nous, avec l'acteur James McAvoy.
M. Night Shyamalan.
Mais avant, lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur France Inter. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yvalapointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos dyslexie sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.